France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Joséphine Reinhardt et Antoinette Benoît, réalisée par Vivian Lecuivre. Et à la technique ce matin, c'est Guillaume Ficheux. À 11h20, on retrouve la table ronde d'actualité co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du journal Le Monde. Bonjour Marc. C'est à Riyad qu'a eu lieu cette semaine la première rencontre russo-américaine depuis le début de la guerre en Ukraine. À Riyad également que se réunissent aujourd'hui les États arabes pour parler de l'avenir de Gaza. L'Arabie saoudite se place au centre du jeu diplomatique. Mais quelle vision, quels intérêts défend-elle? Quelles sont ses ambitions pour la région et au-delà? Nous en discutons avec nos invités. David Rigouleros qui nous rejoindra dans un instant, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Et Christian Chesneau, bonjour.
Bonjour. Bonjour
et bienvenue. Vous êtes grand reporter à Radio France, spécialiste du Moyen-Orient et des pays du Golfe, auteur avec Georges Malbruno de MBS pour Mohamed Ben Salman, Confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient. C'est paru l'année dernière chez Michel Lafond. On se retrouve donc dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, place au retour de terrain. Nous accueillons ce matin la documentariste Tetiana Primatchouk. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous avez, durant presque un an, en 2024, avec votre co-réalisateur Philippe Lanier, parcouru le territoire ukrainien pour tenter de répondre à cette question. Comment les enfants vivent-ils la guerre? Tout près du front, à Kharkiv ou dans les grandes villes de l'arrière, dans les écoles, les foyers et les cabinets des psychologues, vous êtes allés à la rencontre des jeunes Ukrainiens et de ceux qui prennent soin d'eux. Maintenir la scolarité, même si c'est dans le métro ou sous la menace de frappe. Aider les enfants à exprimer leur peur et leur chagrin. Accompagner le deuil de ceux qui ont perdu un parent. Se battre pour faire revenir et réintégrer ceux qui ont été déportés en Russie. Les combats sont nombreux et il y a urgence. Car comme le dit l'une des psychiatres que vous interrogez, il faut agir vite pour que cette génération, à tout prix, évite que les traumatismes ne les privent de leur avenir. Ukraine, l'enfance volée est diffusée sur France 5 et accessible en ligne. On écoute tout de suite un extrait.
Je veux que les enfants aient des rêves d'enfants et non pas des rêves d'adultes. Je veux qu'ils rêvent d'avoir un vélo, un skate, qui dépensent leur argent pour s'amuser, pas pour aider les soldats, pas pour des drones, pas pour des voitures, pas pour les forces armées.
Sofia Chevchouk est directrice adjointe d'un lycée. Nous sommes à Dounaïvtsi, dans l'est de l'Ukraine. Ici, les frappes sont moins intenses que près du front ou à Kiev. Et pourtant, la guerre est partout. Comment les enfants la perçoivent-ils? Comment entre-t-elle dans leur quotidien?
Les enfants, partout en Ukraine, ressentent la guerre, peu importe où ils vivent, en fait, parce que la menace aérienne, elle est permanente. Les enfants sont... Chaque enfant, chaque adulte qui vit en Ukraine, elle est concerné par cette guerre. Parce que chacun connaît quelqu'un qui est mort ou qui va au combat et, ou qui est revenu de combat et qui était blessé. Dans le documentaire, on voit les enfants qui témoignent, qui disent « ça c'est mon voisin, ça c'est qui est blessé, à mon père il a sa jambe arrachée ». Donc en plus il y a des alarmes aériennes tous les jours, donc les enfants ils se cachent souvent dans les caves, donc la guerre elle est partout.
Et vous interrogez les adultes, vous leur demandez comment est-ce que vous faites pour tenter de protéger les enfants de l'actualité. Et on entend des adultes qui disent on essaye de ne pas parler devant eux de l'actualité. Et en même temps, quand vous interrogez les enfants, ils vous disent ah bah là, ils vous parlent de roquettes, ils vous parlent de MIG, ils ont un vocabulaire très précis. Alors ce sont de très jeunes enfants que vous interrogez à ce moment-là et qui vous parlent de la guerre avec des mots qu'on n'imaginait pas entendre dans la bouche d'un enfant. Les protéger de la réalité de la guerre, c'est même loin du front, c'est impossible.
Je
pense que c'est pratiquement impossible parce que Sofia, donc c'est ma cousine et j'interroge ses enfants, ses jumeaux de 5 ans. Et c'est ce qu'elle dit, ma cousine, qu'effectivement, on met pas des infos, on parle pas de la guerre aux enfants. Mais une fois ils sont à la crèche ou à l'école, quand on entend une alarme aérienne, les enfants sont obligés de descendre dans une cave. Donc il faut rassurer les enfants, il faut leur parler. Donc c'est comme ça aussi que les enfants sont au courant. Les enfants aussi entendent les adultes parler, les enfants participent aussi aux funérailles, les enfants participent au retour du coup joyeux du papa qui est venu en vacances. Donc les enfants, on peut pas aller en fait, on peut pas ne pas leur parler de la guerre, c'est juste impossible.
Il y a aussi la minute de silence tous les matins à l'école, suivie de l'hymne ukrainien. Et puis à l'école, au lycée, toujours de votre cousine Sofia Chevchuk à Dunaïvtsi, il y a des ateliers de confection de matériel qui seront envoyés au front. Il y a par exemple des bougies pour les tranchées que fabriquent les enfants ou des bijoux qui vont être destinés à des ventes caritatives. Les enfants, certains d'entre eux, contribuent à l'effort de guerre.
Comme dit Sofia, elle aurait aimé que les enfants utilisent leur argent pour acheter un skate, pour acheter des rollers et qu'ils ne contribuent pas à l'effort national. Mais malheureusement, aujourd'hui, tout le monde se sent obligé de faire quelque chose pour avancer l'Ukraine vers la victoire.
Et comment le vivent-ils ces enfants que vous interrogez en train de confectionner un collier de perles, par exemple, pour une vente caritative? Vous les trouvez volontaires? C'est une manière d'avoir une prise pour eux sur ce qui se passe.
Les enfants sont conscients en fait de la présence de la guerre, du danger permanent, peut-être d'une possible mort. Du coup, les enfants, ils le font volontairement en fait. Personne ne les force de faire des bracelets, de les vendre. Personne ne les force de faire les bougies pour le front. Mais c'est la volonté des enfants en fait, parce que comme la petite fille du film, elle dit, elle a envie d'aider l'Ukraine. Elle a envie que l'Ukraine gagne et au plus vite possible.
À Kharkiv cette fois, et là on est tout près du front, Tetiana Primatchouk. Ici, la vie continue à Kharkiv et l'école se fait sous la terre. Est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi ressemble ce qu'on appelle les écoles du métro ?
Kharkiv, il faut savoir que c'est la deuxième ville d'Ukraine qui se trouve à seulement 30 km de la frontière avec la Russie. Et c'est une ville qui a une menace aérienne quotidienne. Et malgré cela, la vie continue. Et les adultes et les enfants, du coup, s'organisent pour avoir semblant d'une vie normale. L'école, c'est pareil. Toutes les écoles à Kharkiv sont fermées parce que les écoles sont visées par des missiles russes. Du coup, la ville, elle a aménagé 5 stations dans le métro. Donc les enfants, en fait, il y a une espèce de rotation qui est organisée pour que le plus grand nombre d'enfants puissent aller à l'école. Donc quand on a tourné avec Philippe Lagny ces films, il y avait seulement 5 stations du métro qui étaient aménagées pour les écoles, pour les enfants. Aujourd'hui, il y a 7 stations. Ils ont construit 2 écoles souterraines et ils ont aménagé 2 autres lieux spécifiques justement pour pouvoir accueillir les enfants, le plus grand nombre d'enfants.
À quoi ressemblent les salles de classe à l'intérieur ?
Ben en fait, c'est imaginer, on descend dans un métro comme si on allait prendre le train. On passe notre carte Navigo, on rentre et au lieu de tourner à droite, on tourne à gauche pour rentrer dans des salles qui sont aménagées comme si on a l'impression vraiment d'être dans une école normale, classique. Le problème, c'est que les enfants, ils peuvent pas sortir à l'extérieur pour s'aérer, pour jouer. Du coup, tout se passe dans ces lieux un peu enfermés, à huis clos. Donc la récré, les classes, les jeux.
Et vous le décrivez, vous le filmez d'ailleurs. Il y a quelque chose évidemment d'étouffant dans ces classes et ces lieux sans cours de récréation. Et cela occasionne aussi des tensions entre les élèves, d'autant que la plupart de ces enfants vivent tous les jours dans la crainte, dans la peur, certains dans le deuil. Et il faut aussi gérer ça entre deux cours.
Effectivement, on ne sait pas ce que ces enfants ont vécu la veille ou le matin avant d'arriver à l'école. Il faut savoir qu'il y a des bus qui ramassent tous ces enfants-là. Et par exemple, c'est à ça qu'on a assisté avec Philippe Lagny quand on a filmé, c'est que le bus, à un moment donné, il s'arrête parce qu'il y a une alarme aérienne et donc tout le monde descend dans un abri anti-bombardement et on attend qu'il n'y ait plus de menaces pour pouvoir sortir, reprendre le bus et arriver à l'école. Je me permets, excusez-moi, et du coup dans ces écoles-là, justement vu qu'il y a une espèce de nervosité, d'agressivité qui est quand même assez présente, il y a aussi des psychologues qui sont présentes pour pouvoir calmer un petit peu cette ambiance-là.
Et ces psychologues expliquent à quel point il est fondamental de pouvoir offrir un espace aux enfants pour qu'ils puissent parler de ce qu'ils ressentent, de leur anxiété, de leur peur, aussi de leur agressivité. Juste un mot encore dans ces classes. On entend les maîtresses qui sensibilisent aussi au danger de la guerre. Ça fait partie des cours. Il y a ce moment où une maîtresse demande aux enfants qu'est-ce qui est dangereux l'été et que répondent les enfants à cette question.
À cette question, les enfants, il y en a qui disent les coups de soleil et d'autres qui disent les mines. Du coup, voilà, l'été en Ukraine, c'est ça aujourd'hui pour les enfants. C'est le danger permanent de mort. La guerre, c'est ça en fait.
Et il y a ce moment très touchant où la maîtresse réprime un rire nerveux quand l'enfant lui répond des coups de soleil, bien sûr, parce que c'est évidemment la réponse à laquelle on doit s'attendre quand on pose cette question à n'importe quel enfant à travers le monde. Mais ici, la réponse attendue, c'était plutôt effectivement les mines, les explosions. Tetiana Primatchouk, vous le disiez, les psychologues sont devenus des personnes clés dans l'accompagnement de la souffrance des enfants, parce que à Kharkiv, beaucoup d'entre eux ont perdu un proche, souvent un parent. Il y a par exemple Kirill, 7 ans, et Max, 17 ans, qui ont tous les deux perdu leur père. Comment sont-ils accompagnés dans ce deuil ?
Il n'y a pas que les enfants qui habitent à Kharkiv qui ont perdu un membre de la famille. Malheureusement, ça concerne tous les enfants qui vivent en France et beaucoup d'enfants qui ont quitté l'Ukraine depuis le début de l'invasion. Beaucoup de ces enfants sont accompagnés aujourd'hui par des psychologues et c'est beaucoup grâce aux ONG, tout comme l'association par exemple de Gen Ukrainian d'Oksana Lebedeva qui a créé des colonies de vacances pour les enfants avec les traumas les plus lourds, notamment les enfants qui ont perdu les membres de leur famille à cause de la guerre.
C'est la deuxième fois que nous nous voyons cette semaine.
Oui.
En venant ici, j'ai réfléchi et j'arrive enfin à expliquer à quoi ressemble ma douleur. Elle ressemble à un lac plein d'eau. C'est ça ma douleur.
Tu veux me le décrire, ce lac ? Il est de quelle couleur ?
Il est tout petit mais très profond et sombre. Et je suis au bord de ce lac, de dos, et je n'arrive pas à m'y plonger.
Si tu veux, je peux rester à tes côtés au bord de ce lac.
Vous pouvez vraiment ?
Nous sommes dans le centre de santé mentale pour enfants qui s'appelle Unbroken. Et là, nous sommes à Lviv, dans l'est du pays, où la psychiatre Roxana Yurchichin est en consultation avec une adolescente. Vous expliquez dans votre documentaire, Tetiana Primatchouk, que le rapport à la psychiatrie, à la psychologie a beaucoup changé en Ukraine depuis 3 ans.
C'est-à-dire que c'est la fête 18 ans que j'habite en France. Et je me souviens, quand j'étais toute petite, en fait... C'était juste, j'ai jamais connu quelqu'un qui allait voir un psychologue. Et mon grand-père, qui travaille en tant que chef infirmier dans un hôpital psychiatrique, je me souviens qu'il racontait un petit peu la vie d'un hôpital, qu'il parlait des maladies. Et du coup, même là, moi, enfant, je me souviens que j'arrivais pas à faire la différence entre psychologue et psychiatre. Il faut savoir, comme on l'explique, ces médecins-là, ils expliquent très bien dans le film, que la psychiatrie, c'était punitif dans l'Union soviétique. Et malheureusement, c'est cet héritage-là que l'Ukraine a reçu aussi. Et malheureusement, du coup, à cause de cette guerre, il y a beaucoup de traumas. Il y a beaucoup d'enfants qui sont traumatisés. Et c'est pour cela qu'il y a toutes ces organisations qui se mobilisent pour prendre en charge ces traumas. Parce que, comme ils disent, en fait, il ne faut pas attendre la fin de la guerre, sinon ce sera trop tard. Donc, malgré la guerre, malgré le danger permanent, les professionnels, les adultes travaillent avec les enfants pour justement remédier cette future génération qui va plus tard, dans quelques années, reconstruire l'Ukraine.
C'est ce que vous dit cette docteur, il faut agir vite et donc les demandes sont en forte hausse dans ce centre par exemple.
Exactement, ce centre, quand il a ouvert ses portes, donc il y a un an, il y avait seulement 2 spécialistes, aujourd'hui ils sont 12.
Et tous les enfants ne peuvent pas avoir accès à un centre comme celui de Unbroken à Lviv et c'est pour ça qu'il existe aussi des brigades de psychologues itinérants qui se rendent dans les villages ou dans les territoires isolés.
Tout le monde est là ? Aujourd'hui, nous allons dessiner d'une manière inhabituelle. Nous allons dessiner de la musique. Le rôle du psychologue, c'est de stabiliser l'état des enfants pour qu'ils puissent libérer leurs émotions bloquées par un avion, un hélicoptère, une explosion. L'art thérapie par le dessin, la pâte à modeler et tout type de travaux manuels aident les enfants. Ça leur permet d'exprimer leurs peurs et ce qui les ronge de l'intérieur.
Extrait toujours de votre documentaire « Ukraine, l'enfance volée », Tetiana Primatchouk, qu'il faut raconter cette scène, dessiner de la musique. Et on voit effectivement des enfants sur des tables avec des crayons de couleur et qui agitent les crayons de couleur en tous sens. Il n'y a pas de motif particulier sur leurs feuilles. Simplement, ils suivent le mouvement de la musique avec, à côté d'eux, ces psychologues itinérants qui les accompagnent. Comment sont-ils accueillis, ces psychologues itinérants, quand ils arrivent dans le village ?
Déjà, il s'agit d'un petit village à des dizaines de kilomètres de Kharkiv. Et ce village, il était détruit à 30% tout au début de la guerre. Et il est resté comme ça. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de structure. En fait, il n'y a pas de structure, je crois, du tout pour les enfants. Et du coup, quand ces psychologues itinérants arrivent dans une salle, comme on peut voir dans ces films, qui était déjà ravagée, les enfants, ils les accueillent avec une joie immense. Parce qu'il ne faut pas oublier que la guerre, c'est aussi l'isolement. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'école. Ça veut dire que là, c'est le moment où les enfants puissent se voir aussi, puissent se rencontrer. C'est tout comme dans l'école du métro. Puissent voir des adultes, puissent être encadrés. Donc, les enfants sont ravis de pouvoir assister à ces ateliers d'art-thérapie. Et comme ils le disent dans le film, ça les aide, en fait. Ça les aide, ça leur apporte un apaisement.
Et malheureusement, ces brigades itinérantes, elles ne peuvent pas être partout, tout le temps, répondre à l'immensité des besoins qui existent. Alors, il reste quelques temps. Et puis ensuite, ils s'en vont, ils partent dans un autre village, un autre territoire isolé. Tetiana Primatchouk, vous vous rendez également à Loutsk, toujours dans l'Est. Et là, il s'agit d'un centre spécialisé, vous en parliez il y a quelques instants, qui accueille des enfants qui ont subi les plus lourds des traumatismes. De prime abord, ce lieu apparaît comme un lieu de vacances, mais on l'appelle la colonie du deuil. Est-ce que vous pouvez nous décrire cet endroit ?
C'est un endroit assez magique et assez lunaire, parce que quand on est arrivé avec Philippe Lagnier à Loutsk, on a vu des enfants entre 5 et 17 ans, en maillot de bain qui se baignaient dans la piscine, qui jouaient, qui discutaient, c'est des gamins quoi, donc qui profitaient de la vie. Et petit à petit, on s'est rendu compte que ce sont des enfants qui ont vécu des horreurs. La jeune fille des 16 ans qu'on filme avec Philippe dans cette colonie, elle a perdu sa mère, son père, sa grand-mère. Et quand sa famille était tuée par un missile russe, elle est allée les chercher. Donc cette fille, imaginons ce qu'elle a pu vivre, cette fille. Elle a marché sur les corps pour retrouver pour retrouver sa famille, les membres de sa famille. Donc c'est les enfants qui sont très très traumatisés. Et donc cette colonie des vacances, elle est créée pour que ces enfants puissent travailler avec les psychologues, pour qu'ils puissent travailler leur trauma.
Et ce qu'explique Oksana, la fondatrice du centre, c'est qu'il s'agit de mettre en place des protocoles adaptés à chaque traumatisme, à chaque enfant. Ils essaient de construire quelque chose d'adapté à son trauma. Et en l'occurrence, Ksucha, la jeune fille de 16 ans dont vous venez de raconter l'histoire, elle n'arrive plus à pleurer. Elle ne pleure pas, malgré ce qui lui est arrivé. Et elle estime elle-même que c'est un problème. Elle cherche à se reconnecter à ce qu'elle ressent.
C'est ça, parce que la guerre, c'est souvent des larmes, c'est souvent les gens qui pleurent, mais il y a les enfants qui pleurent, mais souvent les enfants aussi n'arrivent pas de pleurer parce que il y a un blocage qui s'est créé au niveau du psychisme. Et donc, c'est pour ça que cette Ksucha, elle est arrivée dans cette colonie. Et d'ailleurs, on voit à la fin du film qu'elle arrive enfin de pleurer pour la première fois depuis qu'elle a perdu sa famille dans un bombardement.
Il nous reste très peu de temps, Tetiana Primatchouk, mais il faut dire un mot très important des enfants qui ont été déportés de force en Russie. On estime que 20 000 enfants ukrainiens, mais ce sont des estimations, ont été forcés de se retrouver en Russie. Leurs papiers ont été changés, leur nom, leur date de naissance. Aujourd'hui, il y a une course contre la montre qui se joue en Ukraine pour retrouver ces enfants, qui est portée notamment par une ONG qui s'appelle Save Ukraine. Combien d'enfants ont-ils réussi à rapatrier ?
Donc, comme vous dites, il y a près de 20 000 enfants, mais qui ont été identifiés uniquement par les autorités ukrainiennes. Combien d'enfants il y en a, en fait, qui étaient déportés par les autorités russes? Il ne faut pas oublier aussi les enfants qui vivent sur les territoires occupés. Et il ne faut pas oublier que tous ces enfants, les filles ou les garçons, sont aussi incorporés dans des colonies militaires à qui on essaie de laver le cerveau. On essaie pour que ces enfants puissent oublier, en fait, leur origine et d'où ils viennent et qu'ils sont ukrainiens.
Et sur les enfants, donc environ 500 à peu près.
Environ 500 aujourd'hui,
enfants,
oui.
Comme par exemple Rostislav, qui vivait près de Kherson, qui est un jeune adolescent. Oui. Il vivait avec sa mère, qui a été mise dans un hôpital. Et lui, emmené de force en Russie, il a subi un lavage de cerveau, mais aussi une formation militaire. Il était destiné à aller sur le front pour combattre des Ukrainiens.
Et c'est ça le pire, en fait. C'est ça le pire, parce qu'on essaie, comme je dis dans le documentaire, désukrainiser ces enfants. On essaie de les russifier, on essaie de leur laver le cerveau. Et c'est Yaroslav, là, il a échappé à deux près, en fait, parce que les autorités russes, ce qu'ils voulaient, c'est l'envoyer sur le front pour que lui, plus tard, il puisse combattre contre son pays, contre son peuple.
Et Rostislav, aujourd'hui, il est rentré en Ukraine, il est dans un foyer de réintégration, il veut devenir photographe, il est d'ailleurs photographe, il travaille pour l'association désormais.
Exactement, et en plus il était accepté dans une école où il peut faire ses études et être photographe professionnel dans quelques années.
Primatchouk, cette chanson qu'on entend, elle a été composée par votre père et c'est vous qui chantez. Que disent les paroles ?
Les paroles, c'est une chanson en fait. C'est un hymne à l'espoir, à la résilience, à la vie. Donc c'est une note positive en fait pour les enfants et pour l'Ukraine. Et
qui clôture ce documentaire « L'Ukraine, l'enfance volée » co-réalisé avec Philippe Lanier et produit par Kappa et New Wayne Studio et diffusé donc sur France 5, on peut encore le visionner. Un lien sera fait sur la page de Culture Monde. Merci infiniment.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Il est important de comprendre deux choses. La première, c'est que le seul dirigeant au monde qui puisse faire avancer les choses, qui puisse même rassembler les gens pour commencer à en parler sérieusement, c'est le président Trump. Il est le seul au monde à pouvoir le faire à l'heure actuelle. La deuxième chose, c'est que pour qu'un conflit prenne fin, il faut que toutes les personnes impliquées dans ce conflit soient d'accord avec lui, que ce soit acceptable pour elles. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui était donc de donner suite à l'appel téléphonique que le président a eu il y a une semaine et de commencer à établir ces lignes de communication.
Plus de 3 ans que les États-Unis et la Russie n'avaient eu de contact direct et c'est à Riyad en Arabie Saoudite qu'une première rencontre s'est déroulée cette semaine entre les deux chefs de la diplomatie, Marco Rubio qu'on vient d'entendre et Sergueï Lavrov. Un succès pour la diplomatie saoudienne qui se rêve déjà en médiatrice de la guerre en Ukraine, tandis que Mohamed Ben Salman, le prince héritier, consolide son rôle de chef de file du monde arabe. L'Égypte, la Jordanie, l'autorité palestinienne et les pays du Golfe se retrouvent ce vendredi à Riyad pour parler de l'avenir de Gaza. L'objectif est d'élaborer un plan de paix alternatif à celui du président Trump. L'Arabie Saoudite a-t-elle vraiment les moyens de ses ambitions diplomatiques au Moyen-Orient et au-delà? Où se trouvent ses propres intérêts et comment les défend-elle? Comment Mohamed Ben Salman, soupçonné d'avoir commandité l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018, est-il passé de la figure de paria à celle de leader régional? On en discute avec nos invités Christian Chéneau et David Rigouleros qui nous a rejoints et que je salue. salue, bonjour.
Bonjour.
Et on commence comme chaque vendredi avec l'édito de Marc Sémo.
Oui, merci Mélanie. Alors effectivement, comme tu le disais, il y a 8 ans, le prince héritier saoudien, qui était déjà l'homme fort de Riyad, était l'infréquentable, y compris pour Washington. Il était accusé d'avoir couvert, sinon ordonné, l'assassinat d'Adnan Khashoggi, opposant de renom, avec passeport américain, dépecé dans les locaux du consulat saoudien d'Istanbul. Mais celui que l'on appelle MBS est devenu désormais incontournable et surtout il a mis ses bonnes relations avec Poutine au service des ambitions diplomatiques de Donald Trump. C'est dans la capitale saoudienne, comme tu le disais, que s'est tenue la première réunion de très haut niveau depuis le début de la guerre en Ukraine entre Russes et Américains. On discutait d'un éventuel cessez-le-feu, mais aussi d'un nouvel ordre du monde. On posait les jalons. Cela acte le changement de catégorie du Saoudien. Au-delà des enjeux du Moyen-Orient, il veut s'affirmer comme un faiseur de paix, faire de son pays un protagoniste majeur sur la scène internationale et une future rencontre directe entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Arabie Saoudite serait la consécration. Alors, fort de son statut de pays abritant les lieux saints de l'islam, l'Arabie Saoudite diffusait jusqu'ici avant tout le wahhabisme, sa version la plus rigoriste. Depuis MBS, le pays brandit le drapeau d'un nationalisme saoudien, voire pan-arabe, et il modernise à marche forcée son pays. Les religieux s'indignent de ces réformes, mais une grande partie de la jeunesse, qui est majoritaire dans la population, le soutient. Ses relations personnelles avec Trump sont anciennes et étroites. Le nouveau locataire à la Maison-Blanche le presse aussi de relancer les accords d'Abraham et de normaliser ses relations avec Israël. Mais depuis la guerre de Gaza, MBS veut un clair engagement d'Israël en faveur d'un État palestinien aux côtés de l'État hébreu. Les pays arabes ne veulent pas du plan Trump pour Gaza. Riyad, en outre, a moins besoin du soutien de Trump avec l'affaiblissement de l'Iran après l'écrasement de ses proxys et le renversement du régime syrien. MBS est jeune, il pense à l'avenir pour imposer la puissance saoudienne dans la région et dans le monde musulman.
Merci beaucoup Marc Sémo, on va revenir sur chacun de ces points, simplement sur la séquence qui vient d'avoir lieu cette semaine. Entre la rencontre russo-américaine en début de semaine et le sommet de Riyad aujourd'hui, il y a cette impression que l'Arabie Saoudite est au centre du jeu, David Rigoulet-Rose. Est-ce que c'est une impression seulement ou est-ce qu'il y a réellement un moment saoudien dans la diplomatie mondiale?
Oui, incontestablement, de la part du prince Mohamed bin Salman, il y a le souci de se présenter comme un go-between pour montrer qu'il est redevenu incontournable après une séquence qui avait été effectivement problématique pour lui.
Un médiateur, non ?
Oui, un médiateur. Il l'a déjà manifesté à plusieurs reprises concernant l'Ukraine. Justement, puisqu'il en est question, dès septembre 2022, il avait participé, il avait été à l'initiative d'un échange de prisonniers. Il avait reçu le président Zelensky lors d'un sommet à Jeddah en mai 2023. Il avait fait une réunion d'une quarantaine de pays sur la problématique ukrainienne en août. Il avait reçu à nouveau Zelensky. Donc on voit qu'il est partie prenante parce qu'il considère qu'il est en mesure de parler à tout le monde. Il est proche des États-Unis évidemment puisque les États-Unis sont un allié du Royaume depuis longtemps. Il a des bonnes relations avec Donald Trump. Et puis par ailleurs, il entretient des relations qui sont pas mauvaises du tout aussi avec Vladimir Poutine, puisqu'il est partie prenante de l'accord énergétique qui s'appelle OPEP+. Donc en réalité, il est comme Donald Trump dans une logique transactionnelle, interpersonnelle, et il se fait fort effectivement de placer sa personne et le royaume au centre du jeu.
Si on comprend bien, il se prépare de longue date à assurer ce rôle de médiateur dans la guerre ou en Ukraine, où on ne l'attendait pas forcément. Mais comment expliquer qu'il valide cette initiative de Trump de régler la guerre en Ukraine au-dessus de l'Europe et au-dessus surtout de l'Ukraine? Vous dites qu'il avait entrepris déjà des relations avec le président Zelensky. Est-ce que là, il y a encore un lien qui peut se faire avec l'Ukraine après le fait qu'elle n'ait pas été conviée, ou en tout cas qu'elle n'était pas possible pour l'Ukraine de participer à cette rencontre russo-américaine?
Oui, mais il a l'ambition d'être le monsieur bons offices. Et là, il a compris que de toute façon, il y avait dans la logique transactionnelle un rapport direct qui était établi entre Trump et Poutine, et donc il offre ses services, comme il a pu le faire par le passé. C'est une manière de montrer son importance aussi, que l'Arabie Saoudite n'est pas cantonnée sur le problème régional exclusif de Gaza, puisqu'il y a une réunion qui est prévue sur justement la proposition de Trump, et la supposée contre-proposition des pays arabes. Donc il élargit, en fait, il est dans une polygamie diplomatique, on peut utiliser ça comme ça, pour reprendre une formule déjà utilisée. Il diversifie ses relations, il a de grandes ambitions à titre personnel et pour son pays. Il fait partie du G20 quand même. Il a intégré les BRICS. Donc on voit bien que il a l'ambition de placer son royaume au centre des futures puissances mondiales. Et c'est indissociable de son fameux plan Vision 2030, évidemment, qui pour lui est l'élément central.
Christian Chéneau, sur la question de l'Ukraine et des ambitions de Mohamed Ben Salman de se poser comme médiateur, vous pensez aussi qu'il a une carte à jouer, encore une fois, en dépit du fait que Zelensky et l'Ukraine aient été évincés de ses premières rencontres?
Oui, comme on disait, il n'est pas négociateur. Il est médiateur, monsieur mon fils. Donc lui, il est là pour effectivement être au centre de la scène. Et je pense que la consécration, presque le sacre diplomatique, va peut-être intervenir dans quelques semaines, quand on aura Trump et Poutine à Riyad. Et là, on aura effectivement Mohamed Ben Salman au milieu. Et là, pour lui, effectivement, ça sera, la consécration, le sacre. Parce que voir l'Arabie Saoudite, effectivement, au milieu des grandes affaires du monde. Parce qu'effectivement, on avait l'habitude de voir l'Arabie sur les affaires régionales. Là, pour le coup, on passe dans une autre catégorie, une autre dimension. Et ce qu'il faut dire aussi, pourquoi on s'intéresse tellement à Ben Salman, c'est que il a beaucoup d'argent. Et c'est vrai que Trump l'a bien compris, parce que il est proche des Américains, enfin de pas tous les Américains. Il n'est pas proche de l'administration démocrate. Par exemple, avec Biden, ça s'est très mal passé. D'ailleurs, c'est Biden qui l'avait traité de paria. Donc là, il aime certains Américains, il aime beaucoup les conservateurs, il aime beaucoup la famille Trump, le clan Trump. Il faut rappeler que Mohamed Ben Salman a injecté 2 milliards de dollars dans le fonds personnel de Jared Kushner, donc le gendre de Trump, qu'il a promis, on va voir, 600 milliards d'investissements sur 4 ans dans la tech américaine. Donc c'est vrai
que que Donald Trump lui a demandé, je cite, d'arrondir à 1000 milliards.
Oui, voilà, on verra. En tout cas, on part. Enfin, c'est des chiffres démesurés. Donc c'est vrai qu'aux oreilles de Trump, quand il entend ça, évidemment, il est réceptif. Et puis avec Vladimir Poutine, faut jamais oublier que quand au moment de l'affaire Khashoggi, quand justement MBS était le paria, qui vient le saluer chaleureusement au G20 de Buenos Aires, c'est Poutine, c'est le seul. Et donc, il n'a pas oublié MBS. Et puis, MBS a refusé de condamner l'agression russe, enfin l'invasion russe en Ukraine. Il respecte pas, enfin, il n'accepte pas l'embargo sur le pétrole. D'ailleurs, il achète du pétrole russe. Donc voilà. Donc là, MBS, évidemment, au centre du jeu, parle à tout le monde. Et compte tenu de sa puissance financière, il est un petit peu le banquier du monde en ce moment. Et bien, tout le monde, j'allais dire, tous les chemins diplomatiques mènent à Riyad.
Marc Sémo.
Oui. Et en plus de ça, il est quand même débarrassé de ce qui était, ce qu'il considérait comme sa principale menace stratégique, qui était l'Iran, même si à la fin, il y avait une réconciliation sous parrainage chinois. En tout cas, la question aujourd'hui est réglée avec un Iran qui est totalement affaibli, qui a perdu tous ses proxys dans la région, enfin, qui ont été sérieusement battus militairement, qui a perdu le régime syrien qui garantissait le corridor territorial avec le Hezbollah au Liban et la Méditerranée. Donc, est-ce que d'une certaine façon aujourd'hui, tout lui sourit et rien ne peut plus l'arrêter comme puissance régionale?
David Rigoleros.
Alors, en tout cas, c'est incontestable qu'il est revenu au centre du jeu, après avoir été un paria, effectivement, sous l'administration Biden. Il a de très grandes ambitions, de toute façon. Il sait qu'il a une marge de manœuvre, mais qui n'est pas éternelle. C'est d'ailleurs le fond du projet Vision 2030. C'est passer une économie post-pétrolière, d'où ses velléités d'investissement tous azimuts, notamment dans la tech américaine ou autre. Alors, il avance à marche forcée, mais en même temps, c'est quelqu'un qui comprend bien les rapports de force, effectivement, avec l'Iran. Il a bien évalué, parce qu'il était beaucoup plus agressif pendant un certain temps. Là, il a ajusté sa posture, justement pour devenir beaucoup plus médiateur, ce qu'il n'a pas toujours été. Il a décidé de sursoir à la confrontation directe avec Téhéran, qui demeure quand même un problème, parce que c'est l'instabilité régionale est un problème pour la réalisation de son plan, ce qui explique le rapprochement qui a été évoqué par Marc Sémo avec Téhéran en mai 2023, qui est plus un rétablissement des relations diplomatiques qu'une vraie normalisation, parce que la rivalité géopolitique demeure. Mais incontestablement, il a l'intention d'essayer de pacifier. Et là, il y a le problème de Gaza qui est pour lui très, très, très difficile à gérer parce qu'il y a aussi une responsabilité particulière de l'Arabie Saoudite par rapport à la problématique palestinienne. Donc, il essaie d'arbitrer sur des intérêts. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, comme pour Donald Trump, comme pour Vladimir Poutine, c'est l'intérêt national qui prime. Il est dans une logique effectivement de plus en plus nationale, sinon nationaliste, qu'il éloigne du wahhabisme qu'il a stigmatisé, parce qu'il veut projeter le royaume justement dans le 21e siècle.
Oui, mais justement, la conciliation entre les intérêts nationaux et l'ambition régionale à minima qu'il se donne, on voit aujourd'hui dans la question de Gaza qu'elle peut rentrer que ses intérêts peuvent rentrer en contradiction. Il y a un sommet donc aujourd'hui des pays arabes en perspective d'une réunion extraordinaire de la Ligue arabe, réunie par l'Égypte. Face au plan Trump, qui a évidemment poussé tous les pays arabes dans leur retranchement en disant on va occuper Gaza, on va s'en occuper et vous allez accueillir la Jordanie, l'Égypte, les Palestiniens, ce sont des lignes rouges pour la Jordanie, pour l'Égypte, a fortiori pour l'Arabie Saoudite, en tout cas pour historiquement. Là, quelle alternative les pays arabes peuvent proposer et l'Arabie Saoudite en tête?
Christian Chenot. L'Arabie va jouer un rôle. Alors, au début, avant le 7 octobre, on était dans une phase de normalisation, d'accélération, peut-être une normalisation avec Israël. Évidemment, le 7 octobre, le massacre du Hamas a télescopé ses velléités de rapprochement. Alors aujourd'hui, deux ans plus tard, l'Arabie Saoudite est en train de jouer un rôle avec ce sommet. Et l'idée, c'est que ce plan arabe dessiné par l'Égypte, le plus grand pays arabe avec 120 millions d'habitants et historiquement leader de la cause arabe et palestinienne, les Saoudiens, ne veulent pas maintenant normaliser très vite avec Israël. Ils n'ont pas forcément un intérêt compte tenu du gouvernement extrémiste en Israël. Donc eux, ils sont sur une ligne un peu plus prudente. Et puis surtout, ils sont encore financiers. C'est-à-dire que le plan égyptien qu'ils mettent sur la table, trois phases, 6 mois l'humanitaire, après conférence sur la reconstruction et après résolution du problème israélo-palestinien, il y a une première phase, il faut beaucoup d'argent. Et c'est vrai que autant l'Égypte va peut-être être le moteur politique, mais derrière, il faut financer. Et là, l'Arabie, c'est un coffre-fort.
Donc, mais ils sont prêts à le faire.
Ils sont prêts à le faire. Il y a des conditions, ça ne va pas se faire comme ça. Mais je veux dire, au moins pour la première phase sur l'humanitaire, il peut y avoir effectivement de l'argent décaissé. Pas simplement pour l'Arabie, le Qatar, peut-être les Émirats. Mais alors, il y a le problème du Hamas, la gouvernance. Mais ce que je veux dire, c'est que là, entre l'Égypte, le poids lourd politique et puis l'Arabie, le pouvoir financier, effectivement, on peut avoir un plan qui peut être cohérent et qui peut être une alternative au plan Trump. En tout cas, on remarque qu'il y a quand même une forme d'unanimité arabe, y compris les Émirats qui ont signé avec Israël, disent « il faut quand même soutenir ce plan, on ne peut pas accepter le transfert de 2 millions de Palestiniens en Égypte et en Jordanie ». Le MBS joue un peu cette carte parce qu'il est le gardien des lieux saints, il a ses projets de développement, il veut faire une riviera, lui sa riviera, c'est pas à Gaza, mais c'est toute la mer Rouge, donc évidemment, il a besoin d'un environnement pacifié, une proximité pacifiée, et donc, il va jouer un rôle, et on voit bien que, encore une fois, ça se passe encore en Arabie Saoudite.
Ah, David Rigoulet-Rose, vous avez l'impression également qu'il y a une unité aujourd'hui des pays arabes sur un plan alternatif pour Gaza, et y compris, on a parlé de la reconstruction de son financement, mais il y a cette question que vous venez d'évoquer de la gouvernance, à savoir, quelle place pour le Hamas dans le futur à Gaza. On sait que les relations entre l'Arabie Saoudite et le Hamas n'ont jamais été très très bonnes, et que peut-être Riyad verrait d'un bon œil une éviction du Hamas de la bande de Gaza, mais est-ce que là-dessus les dirigeants arrivent à se mettre d'accord?
Oui, mais c'est le caillou dans la chaussure, parce que en réalité, les pays arabes, effectivement, se sont entendus de manière, on va dire, une forme de consensus sur le rejet de la formulation brutale de Donald Trump. Pour autant, il n'y a pas unanimité sur, justement, le jour d'après, sur l'identité d'une gouvernance. Et la preuve en est, c'est que le Qatar, par exemple, a été un soutien du Hamas. Il a d'ailleurs été en relation récente avec Téhéran. S'il y a une unité de façade, il y a quand même des contradictions sous-jacentes qui sont importantes. Les frères musulmans, dont le Hamas est une émanation, c'est un cauchemar. Donc, et ça explique les difficultés côté justement du front entre guillemets arabe pour proposer une solution alternative, parce que bah, il y a la manifestation de la résilience du Hamas qui est toujours là, c'est le problème pour le jour d'après, parce qu'il ne peut pas y avoir une gouvernance avec le Hamas. Et la vraie difficulté, et c'est ça que, en fait, c'est là où ils sont mis au pied du mur par Donald Trump, un peu comme toute chose égale par ailleurs, comme les Européens par rapport à l'Ukraine d'ailleurs, hein. On est mis au pied du mur, et les États arabes également, pour proposer quelque chose de crédible. Et ça va être compliqué, effectivement, parce que en plus, à titre personnel, enfin en tout cas pour le royaume, il y a des engagements. Par le passé, il y a le plan Abdallah de 2002, qui était saoudien pour la normalisation avec Israël, qui peut pas être fait dans les conditions actuelles. Il y a le fait d'être gardien des
lieux. Vous nous redites en quelques mots le plan Abdallah.
Le plan Abdallah 2002, qui était l'ancien roi Abdallah saoudien, avait proposé une normalisation avec Israël en contrepartie d'une reconnaissance d'un État palestinien. Et donc, c'était en 2002, la situation sur le terrain est plus du tout la même, c'est le problème, sur la réalisation potentielle. Et il le sait, Mohamed Ben Salman, mais en même temps, il ne peut pas brader la question palestinienne.
Officiellement, une résolution du conflit israélo-palestinien par une solution à deux États, ça reste la position officielle de la diplomatie saoudienne.
Oui, ça reste le viatique, on va dire, international. Le problème, c'est sur le terrain. C'est sa réalisation qui est de plus en plus compliquée aujourd'hui, et il y a eu le 7 octobre. Et aujourd'hui, la société israélienne n'est pas prête mentalement à accepter éventuellement cette problématique. Et on voit bien toutes les contradictions effectivement qui traversent la région aujourd'hui. Il y a une vraie tectonique dont les conséquences sont insoupçonnées pour l'instant.
Christian Chéneau, mettre la reconnaissance de l'État d'Israël et la normalisation des relations par Riyad dans la balance. La reconnaissance d'un État, la création d'un État palestinien, ça reste une équation faisable, possible, où on n'est plus du tout dans ce rapport de force-là.
Ça serait le deal, j'allais dire, idéal. C'est-à-dire qu'effectivement, si il y avait une vraie reconnaissance d'un État palestinien à Gaza, en Cisjordanie, effectivement, pour l'instant, c'est utopique. Hein, je veux dire, on en est loin. Mais là, les Saoudiens, MBS, ne peut pas normaliser en ce moment. Et je pense qu'il ne veut pas en ce moment normaliser avec Israël.
C'est trop risqué politiquement.
Parce qu'ils jouent, même personnellement. Il peut se faire assassiner. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu des précédents. Le grand-père du roi Abdallah II à Jérusalem en 51. Vous avez eu Anwar al-Sadat qui a été assassiné. On ne parle pas d'Yitzhak Rabin en Israël. Donc là, il joue aussi sa peau personnelle. C'est-à-dire, alors, il y a une sécurité, nous, on raconte dans le bouquin, il y a beaucoup de sécurité autour de MBS. Mais là, il jouerait très, très gros. Et surtout, avec en face de lui, finalement, il n'a pas vraiment d'interlocuteur. Parce que là, le gouvernement d'extrémistes en Israël... Voilà, il serait déconsidéré, parce qu'on l'a dit au début, il est aussi le gardien des lieux saints, donc les musulmans. Donc il joue pas simplement, et puis il y a son père qui est pas encore mort, donc qui est aussi très pro, pour qui la cause palestinienne est importante. Donc là, il est un petit peu, je veux dire, corseté. Autant avec avant le 7 octobre, il y avait une vraie opportunité, et on était pas loin d'une normalisation, autant aujourd'hui, les Saoudiens disent à minima, il faut un chemin irréversible pour la création d'un État palestinien. Un chemin irréversible. Et maintenant, ils ont même monté. Maintenant, on veut un État palestinien, en gros. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas les accords d'Abraham comme il y a eu avec les Émirats, qui se sont contentés, finalement, d'un gel de la colonisation, de vague progrès, de promesses dans l'air. Là, maintenant, finalement, c'est un peu contre-productif. Pour les Israéliens, c'est-à-dire que maintenant, les Israéliens aimeraient, évidemment, normaliser avec les Saoudiens, mais les Saoudiens ne veulent pas aujourd'hui. Peut-être demain, ou après-demain. Mais en ce moment, en tout cas, c'est gelé tant qu'il n'y aura pas quelque chose qui se passe, et puis surtout quand on parle peut-être d'annexion de la Cisjordanie, hein, c'est quand même la musique qui est en train de monter, pour les Saoudiens c'est complètement inacceptable.
Marc Semo.
Mais parmi les solutions, est-ce que, pour Gaza notamment, est-ce qu'il n'y aurait pas celle d'un de fait protectorat saoudien sur Gaza? Ce qui pourrait être accepté par les Américains, historiquement.
Non, ce qu'ils veulent, c'est du Hamas sans le Hamas. C'est-à-dire, c'est comme au Liban, du Hezbollah sans le Liban.
Du Hamas sans le Hamas, le meilleur des moyens, c'est de prendre directement, vu que les Égyptiens, en plus, sont totalement militairement, économiquement, etc., de plus en plus dépendants de l'Arabie Saoudite, de fait que ce soit un protectorat.
Oui, mais l'Arabie n'a pas, justement, la puissance politique pour imposer à Gaza, au Hamas, justement, de rentrer dans le rang. Là, il faut absolument l'appui des Égyptiens qui connaissent très bien le Hamas, les services les connaissent bien. Ouais. Après, on peut imaginer.
C'est conciliable entre les deux. Hein.
Après, on peut imaginer. C'est un peu le plan égyptien, une espèce d'autorité pas palestinienne, mais une espèce d'autorité sur Gaza, avec de l'autorité palestinienne, du Hamas sans le Hamas, enfin, édulcorer tout ça avec des forces arabes ou des forces de l'ONU. On voit déjà que l'Europe est à la frontière, est à Rafah, hein, il y a une mission de contrôle du poste frontière. Voilà, c'est ça, c'est trouver une formule qui... Mais évidemment, est-ce que les Israéliens seraient d'accord
et est-ce que les Palestiniens seraient d'accord? Parce que là, on parle de formule de gouvernance complètement par le haut et par les grandes puissances de la région. Est-ce qu'on se pose la question en ce moment? Est-ce que vous savez si elle se pose de savoir, l'autorité palestinienne sera présente à Riyad, de ce que veulent les Palestiniens, de comment on pourrait prendre aussi en compte la voix des Cisjordaniens, des Gazaouis? David Rigoulet-Rose.
C'est très difficile parce que ils sont d'une certaine manière spectateurs d'une histoire qui se fait en partie sans eux. C'est ça le problème. Ça a toujours été un peu vrai, mais encore plus maintenant. Et en l'occurrence, la question de l'autorité palestinienne le problème, c'est qu'elle est très dévaluée. Elle n'est pas présentable comme un substitut aujourd'hui tel que c'est aujourd'hui, comme un substitut crédible. À tort ou à raison, mais en tout cas, elle l'est certainement pas pour le gouvernement de Benjamin Netanyahu, qui avait dit dès décembre 2023, ni Hamas-tan, ni Fatah-tan. Le problème, c'est que quid comme alternative, justement. Et là, on bute sur la résilience de facto du Hamas, qui s'est manifesté dernièrement. Et c'est ça qui met les États arabes en difficulté, parce qu'il n'y a pas de solution magique. Alors effectivement, il peut y avoir une forme de transformisme, etc., mais qui sera pas forcément validé par les Israéliens, c'est le problème. Donc pour l'instant, il y a un grand, grand point d'interrogation, et c'est effectivement, pour l'avenir, c'est pour l'instant très fermé.
Christian Génot.
Oui, on est un peu dans une impasse, encore une fois, le temps est un peu suspendu, on voit bien que, bon, la trêve à Gaza, effectivement, on est dans la phase 1, est-ce que la phase 2 va avoir lieu? Le problème, c'est que, et d'ailleurs, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, avant de partir, donc de l'administration Biden, avait dit, le Hamas a reconstitué ses forces. C'est-à-dire que malgré les bombardements et les liquidations de milliers de combattants, il a dit, ils ont reconstitué le vivier. Et c'est le problème. On voit bien, lors des libérations d'otages récentes, on voit bien que les hommes en armes, ils sont ressortis et ils sont toujours là. Vous avez 2 millions de personnes et donc ils ont pu reconstituer une base et on voit bien, ils sont armés. Et donc... on est dans une espèce de jeu complètement bloqué et on voit mal la sortie. Évidemment, le Hamas maintenant dit écoutez, moi je suis encore là. Et on voit bien les mises en scène des remises d'otages. On voit bien que le Hamas, il veut dire écoutez, on est là, on signe un accord avec le CICR, on expose nos armes, on a encore beaucoup de monde, donc on fera pas sans nous. Sauf qu'évidemment, que ce soit les Israéliens et beaucoup de pays arabes, notamment les Émirats ou d'autres, hein. Mais oui, on peut pas refaire comme ça, remettre les clés de Gaza au Hamas. Donc il faut trouver une formule qui est un peu un casse-tête chinois, hein, de trouver comment on édulcore tout ça, on crée une pseudo-autorité, voilà, en attendant... En urgence, il y a l'humanitaire. Alors, il peut y avoir la phase humanitaire qui peut un peu, sur le plan égyptien, qui est une phase de 6 mois, il peut y avoir, il parle des bulldozers pour déblayer les gravats. Il y a 40 millions, 50 millions de tonnes de gravats dans Gaza, des momilomes, des tentes pour... voilà. Après, on est bloqué. Après, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Quelle gouvernance? Encore une fois, l'Arabie, les pays du Golfe peuvent payer, c'est pas une question d'argent. C'est pas le problème, l'argent. Le problème, c'est politiquement, qui gère Gaza? Et sans le Hamas. Et eux, en ce moment, se disent, écoutez, nous, on n'a pas été éliminés, on est encore là, donc faut compter avec nous.
Vous écoutez Culture Monde, David Rigoulet-Rose, chercheur à l'IFRI, et Christian Chéneau, journaliste à Radio France, sont nos invités pour parler des ambitions de l'Arabie Saoudite au Moyen-Orient et au-delà. Et comme chaque vendredi, nous retrouvons notre partenariat avec l'association Cartooning for Peace, notre sujet vu par les caricaturistes, c'est la bulle cartooning.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les vents, mon vieux.
Assis.
Et le dessin cette semaine est signé du dessinateur néerlandais Martin Wolterink. C'est une réaction indignée aux manœuvres de rapprochement entre les États-Unis et la Russie sous l'égide de l'Arabie Saoudite. On y voit les trois dirigeants assis autour d'une table dans une ambiance de goûter d'anniversaire. Gâteaux, bougies et petits chapeaux en carton sur les têtes. Mais l'anniversaire, c'est celui de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022. 3 bougies ont été allumées sur le gâteau aux couleurs du drapeau ukrainien. Derrière chacun des convives, une affiche « Wanted » a été placardée. Donald Trump, fraude et viol, Mohamed Ben Salman, meurtre de Jamal Khashoggi, Vladimir Poutine, meurtre d'Alexei Navalny, des rappels qui ne semblent perturber personne. Sabre à la main, taché de sang et pourtant tout sourire, le prince saoudien s'apprête à découper le gâteau. Un dessin qu'on peut retrouver sur le fil Blue Sky de Culture Monde et sur la page de l'émission. Je laisse réagir les invités à cette caricature.
Bah, malheureusement, c'est le spectacle qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est des autocrates, enfin les hommes forts entre guillemets. Mmh. C'est un peu le monde de demain, malheureusement, qui est en train de se dessiner. C'est-à-dire que une forme d'impunité. Et d'ailleurs, pour revenir à MBS, il faut comprendre sa psychologie. C'est-à-dire qu'il a été mis à terre, accusé par le monde entier, et aujourd'hui, tout le monde fait la queue pour le voir dans son palais. Vous imaginez son côté, son hubris, son côté, bah écoutez, voilà, moi je suis le maître du monde, voilà. Et puis Vladimir Poutine, effectivement, qui est toujours là et qui a agressé, envahi un pays souverain et qui aujourd'hui adoubé par les Américains, il dit maintenant on va régler l'affaire d'Ukraine par un accord de paix. Et puis voilà, et Poutine c'est une autre affaire, mais voilà, donc c'est vrai que c'est un retour assez cynique de l'histoire.
David Rigoleros, il ne reste plus grand-chose de l'indignation internationale qui avait eu lieu en 2018.
Je dirais qu'on n'est jamais à l'abri d'un gâteau empoisonné.
Oui.
Ça, effectivement, ça peut être une interprétation.
Il y aura beaucoup de gâteaux.
Du dessin, ça nous amène aussi à une question, David Rigoleros, des leviers et des moteurs finalement de la puissance saoudienne dans la région. Vous avez parlé de la manne financière, évidemment, qui représente forcément un levier de puissance important, et les États-Unis y compris comptent dessus. Quels sont les autres moteurs ou leviers de puissance saoudiens? Ça a longtemps été le modèle politico-religieux. Est-ce que ça l'est encore? Est-ce que c'est la question militaire? Est-ce que c'est le soft power qu'essaye de développer l'Arabie Saoudite, ou peut-être aucun de ceux-là et que tout se résume au pétrodollar?
Non, tout se résume pas au pétrodollar, d'autant plus qu'il y a la conscience que ça va être limité dans le temps. Donc il faut engranger maintenant, justement, pour financer des choses qui coûtent très cher tout de suite. Alors là, pour le coup, c'est une logique d'investissement à long terme. Les leviers, bah, dans l'immédiat, oui, il y a ce levier. On le voit sur la question de Gaza, la possibilité de reconstruction, de mobiliser des fonds. Il est évident que le Royaume a des disponibilités en la matière. Et puis, l'autre levier par rapport à Trump et à Benjamin Netanyahou, c'est sur la question de palestinienne. C'est la conditionnalité, justement, d'une normalisation. C'est-à-dire pas à n'importe quel prix. Et comme il y a une envie très, très importante à la fois de Washington et des Israéliens d'effectuer cette normalisation, hein, qui serait un parachèvement du processus d'Abraham, là, il y a effectivement une logique transactionnelle qui est à l'œuvre, et qui est coutumière des participants, hein, on va dire. Et donc, ça montre bien que chacun a des intérêts et des contradictions à gérer.
Christian Chenot.
Oui, alors il y a ce soft power. On a parlé beaucoup de Poutine et de Trump, mais il faut dire que la diplomatie saoudienne, c'est à 360 degrés. C'est aussi beaucoup les Chinois, le premier partenaire commercial économique de l'Arabie Saoudite devant les États-Unis, c'est la Chine. L'autre grand partenaire qui est en train de monter, c'est l'Inde. L'Inde qui a des projets aussi de corridors, et l'Arabie veut se pluguer sur ces corridors. En fait, MBS veut faire de l'économie saoudienne la 15e au monde, dans les 10 ou la 15e ou dans les premières au monde. C'est déjà la première au Moyen-Orient. L'idée, c'est de prendre parti de la géographie, hein, un peu au centre, pour faire de l'Arabie une espèce de plaque tournante de toutes les grandes artères commerciales du monde, que ce soit énergétique, logistique, etc. Et donc d'être un peu une espèce de paquebot ou de plateforme logistique. D'ailleurs, dans le fameux projet NEOM, on en a parlé un petit peu, il y a le fameux port d'Oxagon, une espèce d'immense structure portuaire au sud du canal de Suez, hein, au Suez, pardon, en Arabie. Donc l'idée, c'est de se brancher sur toutes les artères fémorales de la mondialisation, quoi, et d'être indispensable, et puis de développer évidemment ce soft power. Alors on voit bien maintenant, hein, c'est un peu l'école du Qatar, c'est le sport, l'Arabie Saoudite va organiser la Coupe du Monde en 2034, c'est les loisirs, c'est le tourisme, voilà, c'est tout ça. MBS, en fait, Il veut un peu prendre une revanche. On a parlé de l'ancienne Arabie Saoudite qui était vraiment en noir et blanc. Hein, les femmes voilées, la police religieuse, ont coupé les têtes le vendredi en place publique. Là, on veut effectivement se raccrocher à la mondialisation, être comme tout le monde, être un espèce de super Dubaï XXXL pour dire moi j'ai mon pays a de la ressource, on est un grand pays, 35 millions d'habitants, et donc on peut être au cœur du monde de demain, du 21e siècle.
Ça c'est le récit qui est porté depuis un certain nombre d'années, et il faut aussi pouvoir faire la part des choses entre ce qu'on appelle le marketing national, ce récit-là, parce que les projets de villes futuristes, on sait aussi que dans les faits, ça prend quand même plus de temps que ce qui est affiché dans les clips. Donc, comment est-ce qu'on fait aussi la part des choses entre ce récit, c'est ce miroir qui est présenté, et puis les moyens réels?
C'est-à-dire qu'il y a de l'argent, il y a un récit, il y a de la com, parce qu'effectivement, c'est aussi faire briller le produit, j'allais dire. En ce moment, ils ont revu un peu alors à la baisse certains projets, hein, notamment la fameuse The Line, la fameuse ville futuriste, 170 km de long. Mais encore une fois, ils sont en train de se reconcentrer sur des projets phares, parce qu'effectivement, un problème d'argent, alors on l'a pas dit aussi, c'est qu'il y a un problème de confiance. Le problème de l'Arabie, effectivement, MBS, effectivement, est au centre du jeu diplomatique, mais en termes d'investissement, et ça c'est un des talons d'Achille, peu d'investissements étrangers, les gens ont peur, parce qu'il y a eu quand même l'affaire Khashoggi, la rafle du Veldiv, où il y a eu 400 VIP, hommes d'affaires, princes, qui ont été incarcérés, torturés, on leur a extorqué 100 milliards de dollars. C'est un peu le Far West, l'Arabie Saoudite. Vous avez les grandes fortunes saoudiennes, notamment qui sont à l'étranger, qui ne mettent pas un dollar à l'intérieur, parce qu'ils savent, si je mets de l'argent, je peux me faire effectivement spolier par le prince qui, sur un coup de tête, peut dire « ça c'est à moi ». Donc, ils ont un problème quand même de confiance, hein, même si on a l'impression qu'ils sont tout puissants, parce qu'il va falloir, pas simplement de l'argent saoudien, parce que là, ce qu'ils financent, c'est le fonds souverain, hein, c'est le pétrole qui finance tous les projets, mais ils vont avoir besoin d'un secteur privé, d'investissement étranger pour vraiment lancer la machine.
Un dernier petit mot de conclusion, David Rigoulet-Rose.
Oui, là, les derniers chiffres montrent qu'une partie de la croissance saoudienne maintenant est effectivement le privé, ce qui est un indicateur. Il y a un déficit budgétaire parce que c'est lié à l'investissement, à l'argent qui est mobilisé. Donc, on va dire qu'il y a une vraie stratégie, après un diagnostic qui était juste, pour une modernisation au royaume. Mais effectivement, il y a le problème de la confiance. C'est pour ça que le fait de se présenter comme un go-between participe aussi hein, de cette mise en scène pour rassurer, pour faire venir des investisseurs, parce que un projet comme Neom à 500 milliards, il n'est pas finançable. Donc il y a des choses qui ne pourront pas être faites. Mais il y en a d'autres qui sont effectivement en bonne voie. Et donc ça suppose une stabilité régionale. Et on en revient justement à la configuration actuelle, à la fois la problématique sur Gaza et la problématique avec l'Iran, ce qui explique le positionnement aujourd'hui pacificateur, entre guillemets, de Mohammed bin Salman, ce qui n'a pas toujours été au début. Cape Town, A-Town, downtown way. Sundown, touchdown, KSA. 966 if you coming my way. This how we live in the KSA. This how we ride palm trees like LA. Repping my hometown till LA. Right off, tell you how it is, yeah. Tell you, hey, what's up? Tell you how we do it. This is from above. Vision 2030, never giving up. Limited edition 966, that's our love. Jiddar, yard, the mom, ya lil. Le jour, khoba, riding, jamal, riding, khair. Just by taratib, yes. مين خير احنا غير ذا سمارو يا جري كوزي ريل جيم بس جيم عطني عالبلاطة عطني المهم جو انا رايك هيا شوفني مستكن no time for عبطة I'm gonna tell you where I've been to جن يا ويلي ويلا عطني سامري ولا شيلا صب القهوة وزيد الهيلا يا 966 ما في بديل لا اي يا ويلا ويلا عطني سامري ولا شيلا صب القهوة وزيد الهيلا cause 966 ما في بديل لا 966 966 that's how we live 966 I'ma show you how it is that's how we live 966 66 طريقي سيدو يا طريقي مستقيم 966 I'ma show you what I mean 966
Elle est née à Jeddah et elle a fait ses études en Suède. Elle a moins de 30 ans, elle s'appelle Jahra. C'est une rappeuse saoudienne qu'on entend là avec son titre 966, sorti en 2020. Merci à nos deux intervenants, David Rigoulet-Rosé, Christian Chéneau. Je rappelle pour vous votre ouvrage MBS Confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient aux éditions Michel Lafon. C'est paru l'année dernière. Merci beaucoup Marc Sémo. On se retrouve la semaine prochaine. Et lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouvez pour une série pour explorer les liens entre musique et patriotisme. Nous parlerons de la mobilisation en chanson et sur le front des musiciens ukrainiens. Il sera question de la K-pop comme arme de séduction dans le conflit coréen, du raï algérien, musique populaire désormais inscrite à l'UNESCO, et enfin cette question, à qui appartient la country américaine? Et dans un instant, les midis de culture. A little culture with a little wisdom.